Les voies de service, mercredi 23 mai 2018. Bonjour tout le monde, je suis Isabelle Falardeau et je suis en compagnie aujourd'hui encore une fois de seulement Daniel Lachance. Ben, je dis seulement, mais c'est quand même un gros morceau. Alors que c'est... Et bien sûr, Jean-Sébastien à la mise en onde, comme toujours. Et puis, ben, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui, Daniel?
Ben, en première partie, je vais vous parler du concours Ma première place des arts. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Non, hein?
On doit chanter puis faire des...
Quelque chose du genre.
D'accord, alors vous allez pouvoir m'informer là-dessus.
Oui, oui, je vais vous en parler un peu. Et j'ai quelques autres articles assez courts aussi. Et en deuxième partie, je vais vous parler du 50e anniversaire d'un gros show qui a eu lieu au Québec. Et qui va me donner l'occasion de dire des gros
au
mots.
Au Québec, donc t'étais pas au Woodstock?
Non.
À moi, il y a Woodstock en
et
bas.
Et qui va me donner l'occasion de dire des gros mots.
Oh.
Que je sais pas quoi,
mais d'après
moi,
vous
avez un bon indice.
J'ai plus une petite... Le gros mot est peut-être dans le nom du show, hein? OK. Ben, tant qu'à... de mon côté, je vais vous parler de langue Mohawk. D'une part, des étudiants qui s'intéressent à la langue Mohawk et d'une petite radio à Kanisetake. Une radio Mohawk, donc, qui a peur un peu de disparaître. Et puis, je vais aussi vous parler d'un apprenti policier. En fait, comment la police peut changer les choses dans les relations avec les Autochtones, particulièrement à Lac-Simon, où il y a eu des événements assez dramatiques là, les dernières années. Et puis, ben, je vous laisse commencer, mon cher.
Donc, un article que j'ai trouvé dans Le Devoir, c'est-à-dire sur le site ledevoir.com. Je n'avais pas la version
papier. Vous n'avez même pas eu besoin de vous salir les doigts.
Non, et je ne sais même pas si... je pense que les articles n'apparaissent pas nécessairement sur la version imprimée quand on les voit dans ledevoir.com.
Ah oui?
De toute façon.
Oui, puis l'inverse est probablement vrai aussi.
Aussi. Donc, moi, c'est ma source, c'est ledevoir.com, un article de Sylvain Cormier qui est paru le 17 mai. Et qui a pour titre « Ma première place des arts, un nouvel élan ». Donc, c'est pas le concours n'est pas nouveau. On donne un nouvel élan.
Oui, oui, oui.
Sarah Fortin l'a emporté chez les interprètes. Belle grand-fille chez les auteurs-compositrices-interprètes. Un nom à retenir, j'imagine. Bon,
belle grand-fille.
Oui, c'est le nom.
OK. Oui, ben, vous dites un nom à retenir, mais ça va peut-être être un peu difficile. Là. Peut-être quelquefois, l'entendre quelquefois.
Ouais,
ça
va gagner. Peut-être qu'elle a un potentiel pour devenir plus connue.
Mais oui.
Et on souligne ici qu'il y avait seulement que des filles en finale. Donc,
ah oui.
Quand on parle de parité, là, peut-être qu'ici, on est sur la bonne voie.
Ou c'est raté.
Où les gars vont exiger la parité à un moment donné.
Mais oui, c'est ça.
Et le groupe Tonic a été préféré au duo Chandail de loup. Une bonne année pour le
chandail
concours.
Chandail de loup,
oui.
Ça existe encore? Ça? Ben, je veux dire le concept du chandail de loup, pas le
groupe. Ah non, le groupe, je pense qu'il est nouveau, mais le chandail de loup, j'espère que non. Donc, une bonne année pour le concours Ma première place des arts. À la 5e salle de la place des arts, mercredi soir, il régnait une certaine effervescence au-delà de l'habituelle fébrilité d'une finale de concours. Il y a longtemps que je n'avais pas vu autant de gens du métier rassemblés pour le tremplin bâti par Robert Maltais il y a 24 ans. Donc, il était temps vous en entendiez parler. Maintenu brièvement par le regretté Daniel Guérard, consolidé à long terme par François Guy, et relancé par Jocelyn Ménard. Constat, nous entrons dans une nouvelle ère dynamique pour la SACEF, S-A-C-E-F, qui est la Société pour l'avancement de la chanson d'expression française. L'animation du journaliste musical Olivier Robillard-Laveau donnait le ton. « Faites des découvertes », a-t-il suggéré, fort justement. « Laissez-vous prendre au jeu, c'est ça la beauté de la musique ». La beauté persistante du concours, on y ménage encore une place aux interprètes. À la différence de Green Bay, on fait allusion ici au Festival international
oui,
de la chanson de Green Bay que vous connaissez, qui va avoir 50 ans bientôt aussi, je pense.
Ah oui, ben,
c'est que je vérifie, parce que je me souviens que ça avait commencé à la fin des années 60, mais je ne me souviens
alors,
pas.
Alors, vous risquez de nous en parler
éventuellement. Je vais revenir avec ça éventuellement, il faut que je valide. Donc, à la différence de Green Bay, on n'a pas tout regroupé, histoire d'auréoler une future vedette à tout prix. On discernait mercredi encore les interprètes, les auteurs-compositeurs-interprètes et les groupes. Trois finales avaient lieu le même soir par trois finales en une. Pas trois finales en une, pardon. Ces finales fournissaient la matière de trois émissions qui seront diffusées à la chaîne MaTV. Ça compte dans le montage financier. N'empêche qu'elle pourrait être plus discrète, la télé. incapable d'être simple témoin, jusqu'à faire recommencer une chanson parce que François Pilaner Magnan, premier interprète en lice, était un peu à côté de la marque pour la caméra.
Oh, ben là, franchement.
Il en a été décontenancé, forcément.
Ben oui, c'est...
La concentration, ça se perd, surtout en finale. Dommage pour lui.
Non, ça mais devrait j'imagine vraiment la... être inacceptable, ça. Oh, je comprends pas que ça puisse être.
Oh, oui, j'imagine que la télévision aurait pu faire n'importe quoi, passer d'autres images en
même temps. Bouger la caméra.
Effectivement. Mais bon, pauvre lui, j'imagine que c'est peut-être pour ça qu'il a fait la grosse différence, mais ça devait être un petit peu dérangeant. Rien n'a dérangé Sarah Fortin qui respirait la détermination et l'aisance. Voix forte, personnalité assumée, elle a vite fait sienne les chansons de Soul et de Christophe Maé. Une gagnante de toute évidence. Lily Gauthier, audacieuse à sa façon, a osé interpréter du Clay and Friends et du La Bronze Mr. Valère. De loin la proposition la plus originale, mais pas forcément la performance la plus convaincante. Chez les auteurs-compositrices-interprètes, c'était très varié. Jeanne Côté, fille de Petite-Vallée, ne se démarquait ni par le chant, pas toujours juste, ni... Elle doit être contente de lire ça.
Ben oui, c'est ça, étant... Mais non, mais en même temps, ça dit...
Ah, il faut dire les vraies affaires, c'est une critique.
Oui, oui, exactement.
Donc, ni par le chant, pas toujours juste, ni par les mélodies, un peu en berlificoté. Mais sa manière très naturelle d'occuper la scène charmait. Elle y est bien, capte la lumière comme une amie familière.
Mais c'est ça, il devait y avoir une raison pourquoi elle était en finale.
Je suppose. Suivait Petite Elfe.
Petite Elfe.
Petite Elfe. Notons le pléonasme, vous en connaissez beaucoup, de grandes elfes.
Ben, c'est-à-dire dans Le Seigneur des Anneaux,
ouais,
ils sont grands, les elfes.
Voilà, et tac, bon. je semblais qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans cette phrase-là. Donc, elle s'est démarquée, elle, par des défauts de débutante, énonciation déficiente, note agaçante, émotion surjouée. On finissait par ne plus entendre les chansons.
Critique, disiez-vous.
Ouais, c'est rough un peu. Ouais. Ça s'est nettement mieux passé pour Belle Grand-Fille. C'est l'année des pseudo-descriptifs. Je ne sais pas si c'est Cœur de pirate qui a parti cette mode-là. Ça a pris un bout de temps, mais il me semble que tout le monde se donne un nom. Bon. Sensibilité sans esbrouf, sourire attachant, pas de détour inutile dans les propos et les mélodies. C'est beau la vérité, mémorable le sentiment dénudé. Elle seule avait quelque chose à dire entre les chansons. Ça parle. En deux chansons, on avait fait connaissance et on avait hâte à la suite. Victoire sans équivoque. Et les groupes? Au sortir des francs couvertes, il était difficile de ne pas les mesurer aux finalistes si récemment célébrés. Il est d'autant plus notable d'avoir apprécié si vivement le duo Chandail de loup, dont la poigne du mode acoustique, guitare, percu, mélodica, portait idéalement des harmonies vigoureuses. Tandem dont on reparlera. Fontrade et modernité à la même enseigne, ce n'est pas peu dire. De Tonic, l'autre formation en présence, on ne pouvait pas éviter le côté très années 1980. Certes, un peu maniéré, le refrain d'Orange, ça n'existe pas, faisait carrément penser au bébé. Mais très efficace dans le genre. Je dirais que leur palme à l'arraché célébrait plus une époque aimée que le groupe. Ça en disait quand même long sur Ma première place des arts, mouture 2018. Le concours, après 24 ans, semblait mercredi reconduit pour un bon moment sur ce bel élan.
Alors, de mon côté, je vous amène à Val-d'Or, un apprenti policier au service de sa communauté autochtone. En fait, c'est pas directement Val-d'Or, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors, c'est un article qui a été publié le mercredi 9 mai sur Espace Autochtone, le site de Radio-Canada. Devenir policier pour améliorer les relations entre les services de police et les communautés autochtones, c'est ce qui motive les 22 étudiants en technique policière Première Nation du Collège d'Alma. Alors, on est un petit peu loin de l'Abitibi de Lac-Simon. Mais parmi eux, il y a Billy Mouchoum, qui est originaire de Lac-Simon en Abitibi-Témiscamingue. Devenir policier, je dirais, ça a été un de mes premiers rêves d'enfance. La décision de quitter sa communauté située à près de 700 km de son lieu d'études a été difficile à prendre. Une amie qui a suivi le cours l'a encouragé. Si Billy Mouchoum a décidé de devenir policier, c'est parce que les événements ont secoué sa communauté en 2016. Il connaissait bien celui qui a tué le policier Thierry Leroux. « Je voulais aider Anthony, mais je ne savais pas comment l'aider avec d'autres amis. » J'ai d'autres amis qui se sentaient comme ça aussi. Juste pour vous donner une petite idée, là, je suis allée rafraîchir ma propre mémoire. Alors, Thierry Leroux, c'est ce policier qui a été tué en 2016 alors qu'il intervenait pour un appel d'un homme suicidaire avec une arme. Et l'homme a finalement tué le policier avant de se tuer lui-même. Donc, c'était doublement triste, si on veut. Alors, il est aussi le cousin, M. Mouchoum, de Sandy Tarzan Michel, tué par les policiers 2 mois après la mort de Thierry Leroux, le policier. Billy Mouchoum souhaite améliorer la communication entre les policiers et les membres de sa communauté, et il n'est pas le seul. On a des élèves de partout, de toutes les communautés. Je pense que ce qui les anime au départ, c'est le désir d'aider leur communauté, le désir d'être des agents de changement dans leur communauté. Ces événements-là mettent en lumière que les ressources autochtones au niveau policier ne sont pas assez nombreuses, précise Mélanie Lavoie, qui est criminologue et professeure au Collège d'Alma. Billy Mouchoum a d'ailleurs récemment obtenu une bourse de 500 $ de la Fondation Thierry Leroux. Cette dernière a été créée il y a 1 an pour aider les jeunes de la MRC de la Vallée de l'Or en Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est le père de Thierry Leroux qui a créé la fondation. Et puis, moi, je trouve ça une belle initiative parce que c'est son fils a été tué par un membre de la communauté, mais qui avait des problèmes. Pour que ça ne se reproduise pas,
il faut trouver des solutions.
Voilà, on va dans la prévention plutôt que dans la répression. Alors, l'aspect particulier, c'est que Billy se soit pris en main et qu'il ait décidé de devenir un agent de la paix, un policier, pour aider les gens de sa communauté à se sortir de ces événements tragiques-là et des situations sociales qui amènent ces événements tragiques. Moi, ça m'a donné comme un baume d'espérance. Oui, il y a possibilité de faire de quoi si on pèse sur les bons boutons, estime le père de Thierry Leroux, Michel Leroux. Billy Mouchoum doit entrer à l'École nationale de police à Nicolet en août et il a déjà en poche une promesse d'embauche au service de police de Lac-Simon. Et ce texte était d'après le reportage que vous pouvez trouver sur le site de Radio-Canada de Claude Bouchard.
She'd always Un retour très joyeux en 1988 avec Phil Collins et la pièce Two Hearts, un extrait de la trame sonore du film Buster, dans lequel Phil Collins tenait le rôle de la vedette.
Oui. Il y avait plein de talent, ce cher Monsieur Collins.
Après avoir été dans quand même un groupe assez connu.
Vous nous amenez, donc c'est ça, vous remontez notre énergie un petit peu après mon texte un peu moins.
Oui, ça m'a fait penser justement que ça faisait quand même un certain bout de temps qu'on n'avait pas entendu parler de Phil Collins. Et j'ai vu dans Le Voir.
Oui. On était dû.
pas le Devoir, mais levoir.ca.
Oui,
un article de Olivier Boisvert-Magnan qui s'intitule plutôt Phil Collins s'amène à Montréal cet automne. Clin d'œil au nom de son autobiographie Not Dead Yet, qu'on pourrait traduire par Pas encore mort.
Ouais.
cette nouvelle tournée sera une célébration de la carrière de Phil Collins qui s'étend maintenant sur 50 ans. Il me semble qu'il y a bien des choses qui font 50 ans cette année.
C'est l'année des 50.
Pour l'occasion, l'ancien chanteur et batteur de Genesis donnera 15 spectacles en Amérique du Nord et s'arrêtera au Centre Bell le 16 octobre. Les billets étaient mis en vente depuis lundi le 14 mai, je ne sais pas s'il en reste. Mmh. En plus d'une section de cuivre et de choriste, Collins sera accompagné sur scène par le guitariste Daryl Strummer, qui le suit en tournée depuis longtemps, le claviériste Brad Cole, le bassiste Leland Sklar, il doit être rendu vieux, lui. Mmh. Je l'avais vu sur vidéo, il y a plusieurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il a joué longtemps aussi avec James Taylor.
Ah,
une
ouais.
grande barbe grise, il avait l'air déjà vieux il y a
comme
25
ans. Comme
ZZ
Top, là?
Oui, pas mal, okay. Pas mal le même genre. Et le percussionniste Louis Conte, ainsi que le batteur Nicholas Collins, le fils de Phil Collins, qui a 16 ans. Going Back, son dernier album à ce jour, est paru en 2010. Il y a 2 ans, ses 8 albums solo ont bénéficié d'une remasterisation. On ne dit pas rematrissage en français?
On avait expliqué la différence l'autre fois.
Mais Daniel a raison sur ce point. Matrissage étant le terme plus français.
Ouais.
Remasterisation, c'est un anglicisme.
Ouais, parce que c'est mastering. Hein, on parle
exact.
De mastering en anglais.
Exact.
Merci beaucoup. Et d'une réédition bonifiée. Non, mais il faut préciser.
Oui, mais oui, puis surtout que moi, j'avais déjà oublié que c'était la même chose.
C'est un peu pour vous.
C'était pertinent. Merci beaucoup.
Je l'ai ramené. Et d'une réédition bonifiée dans le cadre d'une nouvelle entente signée avec Warner Music Group. Un 9e album ne semble pas être sur le point de paraître, même si Collins a annoncé être en train d'écrire du nouveau matériel en 2015.
Eh bien, moi, je vous ramène en Abitibi-Témiscamingue et je vous préviens à l'avance, là, je suis tombée sur un nom que je n'ai aucune idée comment prononcer. Pour une fois, d'habitude, je m'essaye, mais là, je vais vous l'appeler puis je vais vous donner la chance. On pourra voter. Alors, c'est un projet pour améliorer la santé des Autochtones à Val-d'Or. C'est un article qui a été publié vendredi le 11 mai sur le site ici Abitibi-Témiscamingue et c'est signé Tania Neveu. Alors, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, ou CISAT, pour les intimes, et le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or souhaitent mettre en place, mm-hmm, ça va vraiment
bien.
Je me prépare à l'avance, je vais pas être capable de prononcer quelque chose. Alors, mettre en place un projet pilote pour améliorer la santé des Autochtones. Le projet a été présenté jeudi aux membres du conseil d'administration. Bon, jeudi... avant le 10 mai, ou le 11 mai, donc a été présenté donc, aux membres du conseil d'administration du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. L'initiative qui a pour nom...
Aucune idée.
Et voilà. Alors, Mino, mais le deuxième mot, c'est Madjin, quelque chose comme ça, mais c'est M-A-D-J-I-8-I-N. Alors, je ne sais pas si le 8 compte pour un B... Ou
c'est
est-ce qu'on le prend, est-ce qu'il est muet? J'ai regardé partout, j'ai fait des recherches et puis partout on parle de l'initiative sur d'autres sites, sur le site même de Mino Madjin.
Mais c'est Mino,
c'est
vous devez savoir comment il s'écrit.
Mais le Mino, c'est M-I-N-O, là.
Ah,
Alors, c'était difficile de le tromper. Mais pour le Madjin, alors, soit c'est Madjibin si on prend que le 8 est un B, soit c'est Madjiwitin si on prononce le 8. Alors, moi, je vais dire Madjin pour le reste de l'article, si jamais ça revient. Alors, ça veut dire, par contre, ça, on le sait, vision de bien-être. Alors, donc, cette initiative a pour but d'améliorer l'état de santé général et les conditions de vie des Autochtones. Les deux instances, donc le CIS et le Centre d'amitié autochtone souhaitent ainsi renouveler l'offre de soins et de services en santé et services sociaux pour les Autochtones en milieu urbain, en intégrant les traditions des premiers peuples. Ce projet vise aussi à diminuer les écarts importants entre les conditions de vie sociale et économique et les conditions de santé de la population autochtone. Ce qu'on observe, c'est qu'on a de la difficulté à rejoindre les premiers peuples pour plein de raisons. Une crainte de nos services, la complexité de ce qu'on offre. Notre approche est différente. Il faut donc offrir des services qui permettent de mieux rejoindre cette population et surtout faire en sorte de leur donner le pouvoir sur leur santé, affirme le PDG du CIS-AT, Yves Desjardins. Ça non plus, c'est pas très agréable à prononcer, mais c'est moins long que Centre intégré de santé. Les nouveaux services, dont une clinique médicale de première ligne, seraient dispensés directement au Centre d'amitié autochtone. La population autochtone dans la MRC de la Vallée de l'Or représente 8,3 % des résidents. Il s'agit d'un projet pilote de 5 ans qui pourrait être exportable à l'ensemble du Québec s'il est concluant. La directrice du Centre d'amitié autochtone, Edith Cloutier, souhaite pouvoir le mettre en vigueur dès l'automne. Ce serait un premier projet pilote au Québec qui s'inspire, entre autres, d'un modèle à Ottawa, le Centre Wabono. C'est un centre autonome, administré et géré par les Autochtones, où on retrouve une offre de services hybrides classique dans ce qu'on offre dans les services de réseau, dans les réseaux de santé et de services sociaux, et on veut combiner une offre de services qui s'inscrit dans des modèles de guérison et de médecine traditionnelle. Le projet Mino Magian sera présenté à la Commission Vient le 4 août prochain.
Un article que j'ai trouvé dans le rollingstone.fr, donc la traduction de, du
alors
Rolling Stone magazine.
Alors, vous allez encore nous dire plein de mots anglais, j'imagine.
Ben, peut-être. Ouais, oui, c'est bien. Oui.
Alors, on vous
finalement,
écoute.
Finalement, oui. Et c'est parce que ça m'intéresse, ça parle de YouTube Music, l'offensive de Google contre Spotify et Apple. Le géant Google s'apprête à dévoiler fin mai sa propre plateforme de streaming musical appelée YouTube Music.
Attends, il n'y avait pas déjà Google Play? Moi, je suis abonné à Google Play. C'est, une,
ouais,
c'est du streaming?
Je comprends pas exactement. C'est quoi la différence? On va voir.
Ben oui, c'est vrai. Peut-être excusez-moi. Que, je vous laisse parler.
Je ne disais pas ça pour ça. Là, mais...
mais
non, non, mais effectivement, on s'y perd un peu à un moment donné.
Allez-y, alors, allez-y, on vous écoute.
Sa plateforme de streaming musical appelée YouTube Music. YouTube existait
YouTube existait aussi.
On allait déjà chercher de la musique sur YouTube. Bon, en concurrence à Spotify et Apple Music. YouTube est fin prêt à sortir son premier système d'offres de musique en ligne appelé simplement YouTube Music. Attendu dès le mardi 22 mai, donc ça c'est hier.
OK, donc c'est demain, on devrait déjà pouvoir jouer.
On peut aller voir ça déjà. cette plateforme fonctionne comme toutes les autres. Grande nouvelle. Dans son communiqué officiel paru il y a deux jours, Google précise que YouTube Music se contractera en deux offres. Une option gratuite avec phase de publicité et une payante, YouTube Music Premium, qui permet un service illimité sans pub pour le prix de 9,99$ par mois. Bon. Plus les taxes, ça fait quand même...
Mais ça ressemble un peu à ce qu'on paye sur Google
Play. C'est pas mal, ça s'équivaut. C'est l'endroit où plus de 2 millions d'artistes viennent partager leur voix et leur art avec le monde entier. Ça se présente bien comme ça, mais finalement, pas sûr que c'est payant pour les artistes. YouTube est l'endroit où les artistes et les fans se connectent, peuvent créer et découvrir de la musique, vend l'industrie. YouTube Music est un nouveau service de streaming musical conçu pour la musique. Des chansons, des albums, des milliers de playlists, des podcasts, ainsi qu'un formidable catalogue de remix, de performances live, de reprises que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Mm-hmm. Encore là, j'ai hâte de voir parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on trouve de
c'est
tout
assez facile
un peu
de
partout.
Trouver,
Le fonctionnement du nouveau bébé de Google va directement lier votre expérience via YouTube. En effet, en fonction de vos aptitudes de recherche, de vos goûts et de vos recommandations, YouTube Music sera couplé à un module Google Assistant capable de trouver les morceaux qui vous correspondent. Moi, j'aurais écrit qu'ils correspondent à vos goûts, mais bon. Tout ça reste à être testé. Donc, rendez-vous dès le 22 mai pour voir si Spotify, qui a 75 millions d'abonnés, et Apple Music, qui a atteint plus de 50 millions d'utilisateurs, ont du souci à se faire.
Ah, juste pour vous dire, là, je suis allée voir YouTube Music et ça me dit que je vais être informée quand ce sera disponible dans mon pays.
Ah, ah,
alors,
OK.
Ce n'est pas encore disponible
là, c'était
au Canada.
Rollingstone.fr. Il n'y a pas de Rollingstone.ca. C'est ça qui nous...
on va peut-être avoir la nouvelle. Pour nous, ce n'est pas le 22 mai.
Okay, donc,
mais je peux écrire, je peux donner mon courriel et...
Ce que je vous annonce aujourd'hui, c'est l'avenir au Québec, finalement. On ne l'a pas encore. On n'est pas encore rendu là.
C'est ça.
Donc, un autre article dans Rollingstone.fr. Prince, un nouvel album diffusé en exclusivité sur Tidal. Après un long débat sur l'avenir du répertoire de Prince sur le système de streaming Tidal, il semblerait que Jay-Z ait remporté la partie. Tidal et la maison de disques de Prince ont enfin tranché en fin de semaine dernière. Cette longue bataille juridique entre les deux parties est enfin terminée. Ou du moins, un accord a été trouvé. Pour rappel, selon le média américain TMZ, la succession de Prince avait déposé une requête de plainte accusant notamment le système de streaming géré par Jay-Z, Tidal, d'avoir diffusé près de 15 albums de Prince sans autorisation, violant un accord initial conclu avec le musicien de son vivant. Pour sa défense, Tidal en était même allé jusqu'à la cour, demandant l'exclusivité totale de cet album qui n'était pas encore totalement officialisé. Tout est bien qui finit bien puisque le service de streaming a désormais le feu vert pour diffuser un album inédit de Prince. L'album sortira en 2019 et sera composé d'un morceau exclusif signé par la légende de Minneapolis.
Wow, c'est Tidal, beaucoup, ça.
Ouais, Tidal le diffusera en streaming pendant 14 jours et rendra le disque disponible en téléchargement une semaine après son lancement.
Merci beaucoup. Et c'est ce qui met fin à la première partie de notre émission. On vous revient avec plein d'autres sujets après une courte pause.
Oh, à mon réveil. Où étais-tu? Il vente fort dans mes oreilles. J'achèterai le camion blanc qui nous emportera au printemps en Californie.
En Californie.
En Californie.
Pas tout le monde en même temps.
Je voulais vous laisser la parole. Oui. C'était California de Robert Charlebois, de son album qu'on appelle souvent Lindbergh, mais en réalité, je pense que c'était Robert Charlebois avec Louise Forestier, tout simplement. Ou Robert Charlebois et Louise Forestier. Ou avec Louise. En tout cas, c'était les deux noms.
Alors, c'est que vous allez nous parler de cannabis, c'est ça? C'est pour ça que...
Ah,
parce qu'il devait s'en fumer du bon, hein, à l'époque. En tout cas, cette chanson-là...
J'ai aucune idée, me semble. J'étais quand même encore assez jeune à cette époque-là.
Ah, ouais,
très jeune. Je suis pas sûr que je savais c'était quoi du cannabis à l'époque. Ou j'avais peut-être déjà entendu le nom ou je l'avais lu dans
parce
un...
Parce que ça sonne comme...
Dans un
peut-être
reportage.
Même pas de cannabis, peut-être un trip de quelque chose de plus... Il y avait quelque chose de vraiment psychédélique dans cette chanson-là.
Oui. Ouais. Ben d'ailleurs, il avait écrit cette chanson-là à son retour de Californie et ça avait changé sa carrière et ça avait changé sa vie parce que, je sais pas si vous avez connu le Charlebois d'avant.
Non, est-ce qu'il se promenait en complet cravate?
Oui,
et...
oui.
Pour vrai?
C'était très, très chansonnier, très franchouilleur comme... façon de s'exprimer,
c'est ça.
Tout ça.
C'est les substances.
Mais l'article que j'ai trouvé dans la presse, c'est qu'il parle des 50 ans de l'Hostid Show. Excusez l'expression, mais ça s'écrit O-S-S-T-I-D-C-H-O. Donc, je n'ai pas dit des gros mots. Les 50 ans de l'Hostid Show, j'aime ça le dire quand même. Je vais le dire souvent. Il était une fois la Révolution. Un article de Alain Repentigny dans la presse du 22 mai. La semaine dernière, Robert Charlebois, Yvon Deschamps, Louise Forestier et Mouf se sont retrouvés au 4 sous, le petit théâtre de l'avenue des Pins, où ils ont créé l'Hostid Show le 28 mai 1968, donc 50 ans.
Eh oui.
Bientôt, cette semaine, la
Bientôt.
Semaine prochaine.
Oh, oui, ben.
Pendant une heure, ils ont ressassé devant quelques journalistes leurs souvenirs de ce spectacle total, un peu bordélique, mais combien libérateur, qui a eu au Québec l'effet d'un tsunami dont on mesure encore mal l'impact 50 ans plus tard. Les quatre artistes parlent en même temps, pouffent de rire, et on se dit qu'ils ont vieilli. S'ils ont vieilli, il leur reste encore une bonne dose d'énergie et de la folie qui ont donné naissance à l'Hostid Show.
Vous vouliez le dire,
show,
mais dites-le maintenant.
Ouais, ouais. Quand Charlebois, le verbomoteur, échafaude une théorie, Deschamps, l'iconoclaste, lui lance aussitôt « Vas-y, Robert », à la fois moqueur et affectueux. La synchronicité, c'est la clé de la vie. Comment ça se fait que nous nous sommes retrouvés 4 mois de mai ici? Comment ça se fait que nous nous sommes retrouvés 4 au mois de mai ici il y a 50 ans? Un mystère, lance Charlebois. Deschamps, lui, a une explication plus terre à terre. En fait, c'est arrivé pour une simple raison. J'ai fait faillite le 15 février 1968. C'est pour ça que je me suis retrouvé ici, au 4 sous, avec Paul. On parle de Paul Buissonneau.
Ah oui. Donc, il avait besoin de faire de l'argent, donc
et ouais,
il a accepté de faire un show de musique.
Il dit, Paul Buissonneau engage l'ami Yvon pour vendre des tickets, passer le balai pour 50$ par semaine.
OK, c'est juste, OK, c'était
et comme le petit théâtre de l'avenue des Pins n'a pas les moyens de monter Les Belles Sœurs de Michel Tremblay, il lui confie la mission de trouver un autre spectacle pour la fin de la saison. Deschamps appelle Charlebois et lui propose de monter une revue dans laquelle ils joueraient ensemble un sketch basé sur le personnage avec son bon boss et sa job steady, que lui avait écrit Clémence Desrochers.
Ah oui, c'est elle qui avait écrit ça.
Oui, ça part de là.
Eh ben.
Charlebois, qui revient de Californie, lui parle plutôt d'Alice's Restaurant d'Arlo Guthrie, une chanson totale pendant laquelle le chanteur se mettait à parler notamment du Vietnam. C'est à l'époque de Woodstock.
Oui, c'est ça.
On va faire des intros et des sorties à tes sketchs, un thème musical, ça va faire comme une grande toune de 45 minutes, mais tu vas y aller tout seul, ajoute Charlebois. Donc, c'est pour ça que Yvon Deschamps commençait à faire des monologues. Lui, il avait prévu faire des sketchs avec la gang, les autres ont dit
non,
non.
Personne voulait le faire avec lui.
Nous autres,
on
change, toi, arrange-toi avec tes affaires. Ainsi naîtra le premier monologue d'Yvon Deschamps, Les Unions, qu'est-ce que ça donne? Comme l'avait prédit Mouffe à Charlebois à propos de Deschamps, quand il va se trouver, on pourra plus le suivre. On était des éponges, reconnaît Mouffe, au beau milieu d'une conversation sur l'effervescence de 1968. En effet, tout original qu'il fût, l'hostile show se nourrissait de son époque. Les émeutes de mai 68 en France, les manifs contre la guerre du Vietnam aux États-Unis, bref, un souffle de contestation qui n'épargnait pas le Québec. C'est l'arrivée des baby boomers à 22-23 ans qui veulent toute la place. Moi, j'ai eu le droit de faire ce show-là parce que c'est moi qui produisais le show, en fait. Sans ça, ils ne m'auraient jamais mis dans le show. J'avais 31 ans, j'étais un vieillard, explique Deschamps, qui pouffe aussitôt du rire qu'on lui connaît bien. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui les jeunes comment perçoivent les adultes de plus de 30 ans, mais dans les années 60, c'était comme le slogan, c'était... Faut pas faire confiance à une personne qui a plus de 30 ans. C'était aussi simple que ça.
Ouais, je pense que ça vieillit. Là, je pense que ça va jusqu'à 35 maintenant.
Ouais, ça a changé. Ben, l'espérance de vie est plus longue aussi.
C'est ça, exactement.
Peut-être à cause de ça. Les jeunes prenaient le pouvoir et prenaient la parole. Alors, on s'est dit, pourquoi pas nous autres aussi? On a quelque chose à dire et puis on a aussi une façon de le dire qui est différente, en joual. En effet, avec le Stitch Show et plus tard la même année, Les Belles Sœurs, le joual a pris sa place dans la chanson et le théâtre de chez nous. Et ça a eu des répercussions ensuite. Diane Frayne, qui est arrivée environ 2 ans plus tard avec son premier album, Tiens-toi bien, j'arrive. C'est à nouveau une chanteuse qui chante en joual. La grosse révolution que le Stitch Show a faite, c'est que les gens ont retenu de Lindbergh ou de tout ça. C'est enfin du monde qui chante comme on parle, renchérit Charlebois. On a redonné sa noblesse au langage parlé québécois. On ne dira jamais assez combien le Stitch Show et l'album de Robert Charlebois, Louise Forestier, paru à l'automne 1968, auquel ont contribué les joyeux fous du quatuor du jazz libre du Québec, ont modernisé la chanson québécoise et ouvert toutes grandes les portes à d'autres artistes, du Ferland de Jaune au groupe québécois des années 70 qui se sont mis à jouer leurs propres compositions. La jeunesse d'ici, qui consommait du rock en anglais, se reconnaissait enfin dans cette musique aussi éclatée que ce qui se faisait ailleurs. « Moi, j'ai commencé à écrire parce que ça m'a poussé dans le cul, le Stitch Show », indique Louise Forestier. Je cite Louise Forestier ici.
Oui, bien sûr.
Je les regardais aller, je les trouvais bons. Ils m'inspiraient et j'ai dit « Moi aussi, je vais faire quelque chose qui me fait peur », parce qu'on avait tous peur dans le fond. La première, le 28 mai 1968, a eu l'effet d'un coup de poing dans la face, se souvient-elle. On pense qu'on a fait le flop du siècle, parce qu'après la fin du monde, il y a une minute de silence, personne ne bouge. C'est la première fois de ma vie que je vois un show où personne n'applaudit, rien. Et tout à coup, ça part, ça claque, le monde debout. Il y avait la moitié du monde qui haïssait ça, et l'autre moitié qui disait « on revient demain ». Après une résidence de 3 semaines au 4 sous, le Stitch Show est devenu king size, le temps d'une semaine de représentation début septembre à la Comédie canadienne, devenue depuis le Théâtre du Nouveau Monde.
La bande c'était la Comédie canadienne avant?
Absolument. La bande est revenue au 4 sous avec Jean-Guy Moreau en décembre pour le spectacle « Peuple à genoux » avant de présenter « Le Stitch Show meurt ». Un beau jeu de mots quand même. « Le Stitch Show meurt ».
Oui, « Le Stitch Show meurt ».
Donc, c'est « Le Stitch Show ». Et un autre mot, meurt. À Wilfrid Pelletier, en janvier 1969, puis dans une courte tournée québécoise qui a d'ailleurs été ponctuée d'appels à la bombe à Vaudreuil et à Drummondville. Pendant des années, le Stitch Show est demeuré un spectacle mythique dont seuls les témoins de l'époque pouvaient vanter les mérites. Heureusement, depuis 2012, on peut écouter dans leur quasi-entièreté 2 représentations au 4 sous et à la Comédie canadienne sur le site de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et vous savez pourquoi ça s'appelait le Stitch Show? Hein? Je ne sais pas si vous en souvenez.
Non.
C'est Paul Buissonneau qui faisait... Lui,
Jean-Sébastien lève la main. Alors, pourquoi ça s'appelait le Stitch Show?
Oui, faites-le, votre Stitch Show!
Voilà! C'était Paul Buissonneau qui faisait la mise en scène. Et il était tellement tanné de l'indiscipline de la gang qu'il respectait rien, qui faisait n'importe quoi, qui n'arrivait pas à l'heure. Il a sacré son camp. Il a dit, faites-les donc tout seul, votre Stitch Show. Puis ça, le bouffe des gens, on dit, ah, c'est bon ça! On va appeler ça de même. Alors voilà, pour les 50 ans de le Stitch Show.
Merci. Alors, moi, je vous amène au soleil de Châteauguay. C'est un article signé Valérie Lessard. Des étudiants en journalisme s'intéressent à la langue Mohawk. Des étudiants en journalisme de l'Université Concordia à Montréal s'intéressent à la langue Mohawk dans les communautés de Kanawake et de Kanasetake, À travers un projet scolaire, il tente de voir quels efforts sont faits pour préserver cette langue autochtone ancestrale. Ce n'est pas un hasard si 6 étudiants se penchent sur la question. C'est que Steve Bunchpeel, éditeur du journal hebdomadaire de Kanawake de Eastern Door, est journaliste en résidence à cette université pour la prochaine année. Dans le cadre d'un cours, il a eu l'idée de créer ce projet spécial. À la suite d'entrevues avec une foule d'intervenants dans les communautés visées, les élèves produiront des articles ainsi que des reportages audio et vidéo sur le sujet qui seront diffusés sur un site web. Le but de M. Bunchpeel est d'inciter la population à s'intéresser au sort de la langue Mohawk. Ça inclut les étudiants qui n'ont jamais entendu quelqu'un parler Mohawk avant. Mais j'espère aussi que les gens de nos communautés jetteront un coup d'œil à notre projet, que ça les inspirera. Pour une des étudiantes, Lindsay Richardson, c'est effectivement l'occasion de connaître une culture qui lui était inconnue alors qu'elle habitait pourtant tout près de la communauté de Kanisatake. « Je veux être journaliste parce que, pour moi, c'est une forme de passeport vers le monde. J'ai réalisé que dans ma région, il y avait une culture que je ne connaissais pas du tout. » Elle a qualifié son expérience d'émotive de voir les efforts qui sont faits pour garder la langue Mohawk vivante. Sa collègue Natalia Fedosieva abonde dans le même sens. « J'ai beaucoup appris et j'ai de l'admiration pour eux et leur culture. » L'étudiante d'origine ukrainienne ayant émigré au Canada dit comprendre le combat des Mohawks pour préserver leur langue. « Même si je suis ici et que je suis contente d'être au Canada, c'est important de garder ma langue et ma culture. » À Kanawake, 200 personnes sur 7000 parlent couramment la langue de leurs ancêtres. C'est quand même pas beaucoup. Hein,
non, c'est une faible
alors,
minorité.
D'où l'importance vraiment de travailler fort pour la préserver. Je crois que l'intérêt d'apprendre la langue est plus grand aujourd'hui que lorsque j'étais adolescent, quand la majorité des aînés le parlaient couramment, commente Steve Bunchpeel. Il remarque que des gens de tous âges maintenant ont des bonnes connaissances de la langue Kanienkehá. Les personnes de Kanawake qui désirent apprendre la langue peuvent le faire via différents programmes d'immersion chez les enfants et les adultes. Mais ce n'est pas assez. Nous avons besoin d'aide pour trouver d'autres programmes, croit l'éditeur du Eastern Door.
J'ai parlé tantôt de Prince, la musique de Prince qui était maintenant disponible
sur
Tidal. Mais là, je vais vous parler d'une guitare de Prince qui vient d'être vendue. Encore dans le rollingstone.fr, un article qui a pour titre « Prince, la Yellow Cloud Guitar, vendue pour 225 000 $ ». Je ne sais pas si vous avez déjà vu Prince, il y a une guitare assez particulière, un modèle
qui a été dessiné
pour lui.
Écoutez, j'ai vraiment pas beaucoup
de talent
pour les images.
Avec une grande corne sur le dessus. C'est assez spécial. Si vous l'avez déjà vu, vous vous en souvenez.
OK, ben, je ne dois pas l'avoir vu.
Donc, des instruments, des vêtements, des accessoires et d'autres objets appartenant à Prince ont été mis aux enchères par la maison Julian's Auctions. Une certaine guitare s'est vendue pour 225 000 $. En fin de semaine dernière, la maison Julian's Auction a ouvert ses portes pour... a ouvert ses portes, S'EST. Ça m'enferge.
Il y a un petit travail d'édition qui ne s'est pas bien
ça
fait.
Ça m'enferge un peu. Bon, bref. A ouvert ses portes pour présenter un catalogue ahurissant de biens appartenant à de nombreuses figures de la musique. Bob Dylan, Bruce Springsteen, John Lennon. Des objets étaient entre les mains de mythes, dont Prince. Forcément, il y avait comme une ambiance joyeuse à l'intérieur du Hard Rock Café de New York City où cette immense collection a été présentée et mise aux enchères.
Ah oui, c'est un bel endroit quand même
quand
pour
même.
Présenter.
C'est l'endroit pour ça. Ouais. Souvent, il y en a qui sont donnés au Hard Rock.
Oui, c'est ça. Ben, peut-être que c'est le cas aussi. Il y en a peut-être une couple qui sont restés là.
Ouais. Une section spéciale était attribuée aux chanteurs et une guerre à la vente a très vite explosé, en particulier pour la fameuse guitare appelée le Yellow Cloud, le nuage jaune. Elle est jaune, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous l'avez déjà...
je me disais que c'était peut-être la seule chose que je me disais devait être jaune.
On va trouver ça. À l'époque, fabriquée sur mesure pour le musicien, qui a été vendue aux enchères pour un montant colossal.
Fabriquée sur mesure, parce que
oui, oui, oui.
Mine de
parce
rien,
qu'il
n'est
pas grand.
Non, mais je veux dire, faire fabriquer une guitare, bon, c'est sûr, c'est un musicien.
Il pouvait se la payer.
C'est spécial, oui.
Donc, estimé au départ à 60 000 $, voire peut-être 80 000, le plus haut enchérisseur a fait chauffer la carte bleue afin de mettre la main sur cette gratte emblématique. Il en est ressorti sur un petit nuage. Rolling Stone raconte qu'une poupée en céramique utilisée pour le tournage du clip de Purple Rain a provoqué un véritable raz-de-marée d'enchères.
Voyons.
Oui. Initialement prévu pour une valeur comprise entre 2 000 et 4 000 $ l'accessoire a finalement été vendu pour 12 500 $
Qu'est-ce qu'elle avait été tenue? J'ai aucune ou c'était idée. Quoi, la
non, c'est juste parce qu'elle a été vue dans le clip de Purple Rain. Parmi les 158 autres articles à saisir, il y avait aussi un béret couleur framboise.
Ah, ça, je connais
le
par
Raspberry
contre.
Beret, oui.
Raspberry Beret.
Around the World in a Day, qui a coûté 1750 $ ainsi que des vêtements extraits de la garde-robe de 1999 de Prince. Il y avait un album et une chanson.
C'est assez exubérant quand même comme garde-robe, si je me souviens bien.
Oui, puis ça, quand ils parlent de 1999, c'est qu'ils font référence à l'album et à la chanson 1999 de Prince. Il a été juste avant Purple Rain. Il a été rapporté que deux enchérisseurs ont dominé pendant cette journée. Selon les organisateurs de chez Julian's Auctions, l'un était un fan de Prince japonais et anonyme, l'autre étant Jerry Fraze, directeur des objets de mémoire pour la compagnie Hard Rock.
Alors, comme on disait, le Hard Rock a dû en conserver quelques-unes.
Certainement.
Eh bien, moi, je vous parle encore de la langue Mohawk. C'est la communauté de Kanesatake qui se bat pour garder sa radio. C'est un article publié le 10 mai. Alors, on est dans la même semaine. Hein. J'avais des vieux articles en...
En banque.
En banque, dont je voulais vous parler. C'est, j'ai pris ça sur Espace Autochtone, le site de Radio-Canada. Alors, donc, la communauté Mohawk de Kanesatake, au nord-ouest de Montréal, s'inquiète de voir sa seule station de radio disparaître au profit d'une station de radio chrétienne de la chute. Et c'est un article non signé, mais qui est de Radio-Canada avec CBC. En juillet dernier, CKHQ Kanesatake, United Voices Radio, a dû fermer en raison de dégâts d'eau dans son bureau. La station avait prévu de rouvrir dans un nouvel emplacement, mais en mars, la communauté a découvert qu'une station de radio de musique chrétienne, aujourd'hui l'Espoir, à La Chute, à environ 30 km au nord de Kanesatake, avait fait une demande pour occuper la même fréquence, le 101,7. « J'ai l'impression que nous allons perdre notre station », s'inquiète Sid Gaspé, l'un des cofondateurs de CKHQ. Le consultant en radiodiffusion Michel Mathieu a été embauché pour aider CKHQ à se remettre sur pied avec des plans pour étendre son signal. Selon lui, une station de grande puissance si proche pourrait causer de graves interférences au signal de Kanesatake. Les sites d'émetteurs sont trop proches. Le 101,7 à La Chute détruirait le signal de Kanesatake, donc ça ne marcherait pas. CKHQ fonctionne sous 50 watts, ce qui en fait une station de faible puissance. Dans une lettre adressée au Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, Michel Mathieu explique que cela laisse la station de Kanesatake sans protection. Le consultant craint que ses clients n'aient à trouver une autre fréquence de diffusion en cas d'approbation de la station de La Chute, ce qui serait difficile étant donné la congestion de la bande FM près de Montréal. Nous avons essayé de négocier avec l'autre partie. Nous avons essayé de trouver un accord acceptable pour les deux parties et nous n'avons pas eu de réponse. Michel Mathieu pense qu'aujourd'hui, l'Espoir devrait trouver une autre fréquence pour sa radio, notamment sur la bande AM. CKHQ est un... Oui, je sais, AM, c'est un
ça
peu...
Ça existe encore.
Mais ça existe encore, mais en même temps, c'est un peu normal. Elle est déjà prise, cette station-là, cette fréquence-là, même si c'est pas dans la même ville, mais c'est tellement proche. Ah bon, j'ai peut-être un... Vous allez me dire que j'ai peut-être un...
Oui.
un biais en faveur de Kanesatake. CKHQ, donc, est un élément essentiel de la culture de Kanesatake, estime Sid Gagné. C'est un outil de communication très important pour la communauté. Notre objectif était toujours de promouvoir la langue Mohawk, qui est menacée parce que nous sommes si près d'une région métropolitaine et que nous sommes tellement influencés par l'extérieur. Et on parlait juste avant de moyens de préserver la langue Mohawk. Alors, une radio en langue Mohawk, ça semble assez évident comme outil. D'ailleurs, pour l'enseignante Joséphine Delorimier-Gabriel, les émissions en langue Mohawk de 101,7 FM sont également un outil pédagogique précieux. Beaucoup de nos jeunes ont commencé à parler la langue en écoutant la radio. Ils l'apprennent ainsi. Une audience du CRTC pour étudier la demande d'Aujourd'hui l'Espoir est prévue pour la fin du mois à Gatineau. J'ai vérifié, là, j'ai pas réussi à trouver s'il y avait eu de dénouement, parce que bon, l'article date du 10 mai, on est aujourd'hui le 23, mais d'après ce que j'ai pu trouver, ça ne s'était pas encore produit, voilà. Donc, on parle de la fin du mois, donc ça ne s'est pas encore produit, je crois. Michel Mathieu a demandé officiellement au CRTC qu'une audience publique soit tenue afin que les Mohawks de Kanisataki puissent partager leurs préoccupations en personne. Contacté par le réseau anglais de Radio-Canada, Aujourd'hui l'Espoir a décliné une entrevue. Dans une déclaration écrite, un porte-parole du CRTC a affirmé que les commentaires de Kanisataki seront examinés par la commission.
Un autre article que j'ai trouvé dans le rollingstone.fr, je me suis payé la traite un peu, ce qu'on vient d'entendre de Nirvana. L'article a pour titre « Francis Bean Cobain perd la guitare de son père dans son divorce ». On parle de Kurt Cobain.
Ah non,
Cobain,
ça c'est triste.
Oui, c'est pour ça que quand j'ai vu le titre, j'ai dit « Qu'est-ce que c'est quoi cette histoire-là? » C'est un article qui est paru le 18 mai, donc ça fait pas très longtemps, on est le 23 aujourd'hui. Au terme d'un combat juridique qui a duré 2 ans, la fille de Kurt Cobain, Frances Bean Cobain, a été obligée de céder la Martin D18E, guitare mythique de son père utilisée lors des sessions MTV Unplugged. Vous vous souvenez, sur MTV, la série de concerts Unplugged, des groupes qui allaient là comme... premiers, ça avait été Eric Clapton. Jouer avec toute la section électrique, mais c'était guitare acoustique. Donc, la guitare qu'il avait utilisée pour le concert Unplugged. Les juges n'ont pas fait de cadeau à Francis Bean Cobain dans son divorce avec Isaiah Silva. Ce dernier, chanteur et guitariste des groupes californiens The Rambles et The Eries, avec qui il a eu un petit succès pour le titre Cool Kid, a peut-être touché un joli pactole. Après une idylle qui aura duré 6 ans, dont 2 de mariage, la fille de Kurt Cobain avait demandé le divorce en 2016. Mais la procédure s'est éternisée pendant 2 ans. En cause, un désaccord de partage des biens. Isaiah réclamait la guitare Martin D18E datant de 1959 et ayant appartenu à Kurt Cobain lui-même, sous prétexte que Francis lui aurait offert comme cadeau de mariage.
Ah, ben
erreur.
Là,
on ne fait pas des affaires
d'affaires. Ben oui, mais l'amour, ça ne dure pas toujours.
De plus, on aurait dû dire « je te la prête » tout le temps qu'on va être ensemble. Bon. De plus, il demandait une pension alimentaire de 25 000 $ par mois. Rien que ça. US, j'imagine, en plus.
Par mois? Colin, moi, je gagne même pas ça par année,
bien,
mais bon, c'est pas de vos affaires en même temps.
Mais ce n'est rien compte tenu de la valeur estimée de cette guitare acoustique connue pour être la dernière du chanteur de Nirvana et immortalisée dans le mythique MTV Unplugged. Modèle déjà très, très rare, car produit à seulement 300 exemplaires, il est d'autant plus qu'il fut le dernier instrument en date dont Kurt Cobain aurait joué avant de se donner la mort quelques mois plus tard. L'émission fut diffusée le 12 décembre 1993 sur MTV. Kurt Cobain est mort en avril 1994. Si cette guitare est inestimable pour de nombreux fans, elle pourrait valoir plusieurs millions de dollars. Plusieurs millions, je trouve ça exagéré, mais bon, celle de Prince s'est vendue 225 000. Mettons au moins un demi-million.
Mais Kurt Cobain,
En tout cas, on verra. Malgré les efforts de Francis pour la récupérer, les juges ont décidé qu'elle revenait donc à Isaiah Silva. Je ne sais pas comment il a fait pour prouver qu'elle lui avait donné un cadeau.
Peut-être qu'elle avait reçu dans une lettre.
C'est ça,
peut-être qu'elle lui a remis devant témoin le jour du mariage.
Il doit avoir
plusieurs témoins ce jour-là.
Peut-être que l'article ne le dit pas, mais peut-être qu'ils se sont servis de ça pour négocier à la baisse la pension alimentaire.
Oui, c'est ça. Peut-être juste 22 000.
C'est ça. Peut-être qu'on va juste 1 000, je ne sais pas. Même si Francis récupère cependant la maison qu'ils avaient achetée, c'est un sacré coup dur, car qui sait ce que cette guitare deviendra?
Eh bien, il y a des guitares qui se vendent des millions.
C'est assez surprenant. Hein? Et j'aimerais ça voir parce que la guitare de Prince dont on parlait tantôt, c'est vraiment un modèle unique. Ça, je peux comprendre.
Ça, j'avoue. Oui, c'est ça. Parce qu'elle a été conçue pour lui, sur mesure. Ouais. En plus, elle a été emblématique.
Par contre, la guitare avec laquelle on le voyait le plus souvent, c'est une Fender Telecaster très normale. Et je ne sais pas si un jour elle est vendue, combien elle pourrait atteindre. Parce que c'est quand même un modèle qui en a plusieurs centaines de milliers sur la planète. Ouais. C'est très différent.
Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Jean-Sébastien, la liberté à la mise en onde et aux choix musicaux. Merci beaucoup, Daniel.
Merci.
La chance.
Oui.
On espère que Serge Bradet sera de retour en forme la semaine prochaine.
Non, il est encore en
vacances.
Alors,
on lui souhaite encore des bonnes vacances. Et puis, moi-même, Isabelle Falardeau, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne journée. Profitez bien du soleil.
Bonne journée.